Bonjour, vous êtes bien sur Radio Vassivière. Ici Émilie depuis Feltin pour la 7e émission.
Élève-toi
avec les enfants.
Oui, c'est bien ça.
Élève-toi
avec les enfants.
Une invitation à s'élever, à grandir auprès des enfants, que ce soit chez vous en famille ou au travail, ou que ce soit pour bientôt, ou que vous soyez déjà grands-parents d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire écouter un podcast. Un podcast de la série Grandir. C'est sur YouTube, la chaîne Grandir, de Jessie Canel. Elle m'a interviewée, c'était le 17 décembre 2021. Le titre qu'elle a donné, c'est quelque chose comme « En chemin vers les apprentissages autonomes ». Jessie m'a contactée puisque j'étais avant instit, professeur des écoles, dans le public et aussi en maison d'enfants et aussi dans une école associative que j'ai eu la bonne idée de créer dans la Drôme en 2015, qui a duré 2 ans. Et que maintenant, je suis en école à la maison. Voilà, c'est tout ce parcours-là qui intéressait Jessie. Et c'est là-dessus que je me livre au cours de ce podcast avec un gros morceau sur mes années d'instit dans le public à Saint-Sylvain-Bellegarde. Et d'ailleurs, si jamais d'anciens élèves sont en train d'écouter, je vous salue. Envoyez-moi de vos nouvelles, ça me fera plaisir. Donc, je vous laisse à l'écoute de Jessie qui m'interviewait en décembre dernier. Et puis, on se retrouve dans un petit moment. Bonne écoute.
Salut à toi, parents, futurs parents, professionnels de l'enfance. Et bienvenue dans ce podcast Grandir. Je m'appelle Jessie Canel et j'écris ce podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience, leurs difficultés ou leurs réussites dans tout ce qui touche au domaine de la parentalité, de l'éducation, de la pédagogie. Ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer à faire évoluer le regard et les représentations autour de l'enfant, de contribuer à renforcer les liens entre parents et enfants de façon authentique. Dans ces premiers épisodes, nous parlerons plus spécifiquement de l'école. On traverse un moment de notre histoire qui réinterroge à la fois notre présent et notre passé, et qui identifie certaines choses qui nous ont été verticalement apposé pour des raisons qui n'apparaissent aujourd'hui plus légitimes. Les femmes veulent se réapproprier leur accouchement. Les consommateurs souhaitent avoir davantage de contrôle sur ce qu'ils ont dans leur assiette. Des innovations émergent grâce au financement participatif et donc à l'écart des modalités institutionnelles ou commerciales que l'on pensait incontournables. Bref, on observe l'émergence d'une sorte d'intelligence collective qui œuvre de façon horizontale par la mise en réseau de chacun. Une intelligence collective qui serait au service du recouvrement d'une certaine forme de souveraineté. Et dans ce même mouvement, l'école qui semblait aller d'elle-même comme un fait naturel est de plus en plus réinterrogée dans sa légitimité. Alors oui, ça n'est pas chose facile que de questionner la place de l'école, car nous avons été enfants et nous sommes aussi passés par là. Nous n'avons jamais été invités en tant qu'enfants à donner notre accord sur le fait d'aller en classe ou non. Il fallait y aller, c'était comme ça. Il fallait s'y soumettre au risque de s'exposer à des sanctions. Mais si l'école n'apparaît plus naturelle car elle est réinterrogée, alors elle peut faire l'objet de propositions différentes. On peut suggérer des écoles alternatives ou même, de façon plus radicale, des alternatives à l'école. C'est bien ce qui émerge depuis plusieurs années. Qu'il s'agisse d'écoles démocratiques, alternatives, d'écoles à la maison, de unschooling, ce sont autant de possibilités que nous tâcherons de découvrir dans ces premiers épisodes. Dans la continuité du précédent épisode qui donnait la parole à François Bégaudeau, ancien enseignant, c'est Émilie Roudier que j'accueille aujourd'hui. Tous les deux ont été de très bons élèves et tous les deux ont bien perçu, de leur place de prof, les limites de l'école telle qu'elle est pensée aujourd'hui, notamment dans ce qu'elle attend des écoliers et la place qu'elle leur assigne. Émilie, comme François Bégaudeau, a quitté l'éducation nationale. Elle a démarré sa carrière en tant que professeure des écoles en classe unique où elle a pu, nous allons l'entendre, expérimenter diverses pistes pédagogiques. À la différence de François, après avoir quitté l'éducation nationale, elle a continué l'enseignement en créant sa propre école alternative. Elle nous raconte avec lucidité son parcours, fait de hauts et de bas, de moments de grâce et de périodes tendues. Actuellement, elle accompagne ses deux enfants en instruction en famille, oscillant entre unschooling et école à la maison. Le fil conducteur de son parcours me semble être un geste éthique. Organiser les conditions qui permettent aux enfants et aux adolescents d'apprendre en coopérant, dans le respect de leur autonomie et de leur créativité. Ils en tirent, selon son point de vue, d'inestimables bénéfices dans leur relation à eux-mêmes ou aux autres, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants. Émilie nous expose donc ici sa démarche, alimentée par une volonté tenace d'offrir les meilleures conditions possibles à l'apprentissage et à l'évolution individuelle des enfants. Bonjour Émilie Roudier, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Jessie, avec plaisir.
Alors je te présente en quelques mots, tu es maman de deux enfants de 3 et 7 ans en unschooling, en école à la maison. Tu as été professeure des écoles pendant 5 ans. C'est une expérience que tu relates dans un témoignage écrit disponible chez The Book Edition qui s'intitule « Je suis allée à l'école ». Tu as ensuite travaillé en maison d'enfants avant de créer ta propre école associative dans laquelle tu as travaillé durant 2 ans, il me semble.
C'est ça.
Tu es passionnée par la parentalité, tu accompagnes aujourd'hui les parents et tu réalises des supervisions pour les personnes qui souhaitent créer des écoles hors contrat. Alors, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience, déjà peut-être de ton rapport à l'école en tant qu'élève, puis en tant que prof, et puis des prises de conscience qui ont eu lieu sur ton chemin de prof, qui t'ont permis de faire ce parcours-là? On t'écoute.
Alors, eh bien, moi j'adorais aller à l'école. Ah, j'y suis allée très tôt, j'avais 2 ans et 9 mois. J'étais du style très bonne élève, première de la classe, qui veut tout faire très bien. Le cahier, le classeur, tout bien écrit, tout bien rangé, voilà, tout parfait. Et en même temps, une pression énorme pour ça. Et puis, vite cataloguée comme très bonne en maths, donc un petit peu moins bonne en français. Aucune ouverture sur les arts. Alors, le sport, ça allait, mais les arts... une ouverture, je chantais mal, je dessinais mal. Donc, assez vite classé, maths, sciences. C'est vrai, c'était facile pour moi. Donc, un parcours, voilà, comme ça. Au collège, grosse pression pour être la première de la classe. Ok, donc, ben, moi, j'étais une élève première de la classe, quoi. Qui aimait avoir tout juste, tout bien, tout propre, tout bien écrit, voilà. Assez vite quand même, j'ai été cataloguée comme bonne en maths, bonne en sciences, et un petit peu moins en français, enfin si, orthographe, grammaire, oui, un petit peu moins en production d'écrit, moins bonne en art, voilà, je ne sais pas chanter, juste comme ça, je ne sais pas bien dessiner. Donc voilà, cataloguée maths sciences, première de la classe. Au collège, grosse pression pour être la première de la classe. Je suis vraiment rentrée dans ce système-là à fond. Pas vraiment d'épanouissement hein, en dehors de l'école. Toujours aucun intérêt pour l'art, la culture. Et puis, la lecture, ça m'est venu très tard, à 16 ans, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Mais on peut très bien être premier de la classe sans tout ça. Ça marche très bien. J'ai voulu faire différents métiers. Alors j'ai voulu faire instit, prof de maths, prof d'anglais, prof d'histoire et géo, prof de physique, prof de bio. Voilà, j'avais pas d'autre idée en fait que enseigner. De toute façon, quand on va à l'école, en fait, on connaît le métier de nos parents et le métier d'instit. Mm-hmm. Voilà, en gros, je connais un peu le métier de mes grands-parents paysans. Voilà, c'est instit. C'est vu instit ou prof. J'ai fait des études de sciences physiques, hein, qui m'ont beaucoup plu, et puis après, voilà, l'IUFM. Je suis pas du tout arrivée à l'IUFM en voulant remettre en cause quoi que ce soit.
Oui.
J'y suis arrivée, alors j'étais dans un petit IUFM, à Guéret dans la Creuse, c'était une super bonne ambiance, un rapport privilégié entre les profs et les élèves, les étudiants. Et puis en fait, c'est juste petit à petit que je tombais sur quelques profs d'UFM qui ouvraient un petit peu plus aux pédagogies coopératives, qui me parlaient de freiner. Voilà, j'ai eu quelques ouvertures à ce moment-là. Et puis, j'avais fait un constat quand même. À un moment où ça allait être mon tour d'être un style, j'avais fait le constat de trois choses. J'avais pas envie que les enfants dans ma classe ils s'ennuient. Parce que tout compte fait, je m'étais pas mal ennuyée. Tu vois, parce que quand t'as une heure pour faire un exercice et qu'il est fait en cinq minutes, et que t'as, bah, à l'époque, moi, on composait rien d'autre, quoi. J'aimais pas lire, on disait juste, bah, lis ton livre. Mais moi, la lecture, ça m'est venu beaucoup plus tard, donc il y avait rien. Donc, j'avais des cartes de géographie, j'ai appris des cartes de géographie entières pendant des heures. Voilà, je connais toujours, je sais pas si ça me sert à grand chose, mais bon. Et donc, je voulais pas qu'ils s'ennuient, les enfants. Il fallait toujours qu'il y ait quelque chose de disponible à faire, tu vois, c'était vraiment ça, c'est... Ensuite, j'avais pas envie qu'ils rentrent chez eux avec leur souffrance. Parce que moi, j'avais été souffre-douleur, tu vois, en CE1, je me rappelle très bien. Fille, et puis ça n'avait pas du tout été pris en charge, ni par le corps enseignant, ni par mes parents. Donc, je voulais vraiment pas qu'il y ait ça, quoi. Qu'on puisse exprimer les problèmes relationnels et puis les résoudre, quoi, qu'ils ne vont pas chez eux. Non. Et la troisième chose, mais j'avais envie qu'ils se connaissent. Parce que finalement, je m'étais rendu compte que moi, mes camarades de classe, j'avais mes deux, trois copines, mais sinon, on était assis les uns à côté des autres, mais on n'avait quasiment rien fait ensemble, quoi. Je les connaissais pas, en fait. Je me dis, ah, mais en fait, on avait des centres d'intérêt. Enfin, en fait, on s'est pas rencontrés, quoi. Donc voilà, j'avais envie que les enfants, ils puissent vraiment faire des choses ensemble et vraiment se rencontrer. Enfin, on se connaît, quoi. Être ensemble, en fait, pour former un groupe.
On voit comment ton parcours d'élève structure aussi tes envies par rapport à ton démarrage de prof.
Eh ben oui, ouais, c'est ça. J'ai commencé à être instite, j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans. Donc voilà, j'étais riche de ces trois leçons que j'avais tirées.
Oui.
Et je suis arrivée dans une classe CE2, CM1, CM2 à la campagne, avec magnifique, ça m'avait de la tarde. Et j'étais toute seule dans cette école. Mmh. Et bon, assez vite, j'ai mis les tables en U. Voilà, comme ça. Le conseiller pédagogique est rentré, il dit, on va donner un banquet ici ou pas? Voilà, je fais quelques petits aménagements, j'ai acheté, pas mal de choses pour que les enfants ils puissent faire des choses justement seuls en autonomie. Et puis toujours pas d'idéaux, hein. Voilà, j'avais jamais lu ni Holt ni Leach ni quoi que ce soit, même pas Freiner, j'avais entendu parler mais j'avais rien lu. Et c'est juste en fait j'étais en difficulté avec un enfant de CM2 parce qu'il était assez rebelle en fait. Et ben dans mon parcours d'IUFM, on n'avait pas du tout appris à gérer les enfants. C'est paraît une blague, mais ce n'en est pas une. Ni rien sur la connaissance de soi et rien sur la manière d'être avec les enfants et leurs besoins et comment on fait pour communiquer avec eux, pour les mettre bien. Enfin, il n'y avait rien de tout ça.
Incroyable.
Oui. Et c'est pas du tout quelque chose que j'avais creusé. Moi, j'avais 22 ans. Je suis l'aînée on est 16 cousins cousines. Voilà, c'était ça mon expérience, quoi. Mes petits cousins et cousines. Un peu d'animation, mais voilà. Et donc, je demande de l'aide au psychologue scolaire, je l'appelle, et là arrive un monsieur passionné de pédagogie institutionnelle. Donc, il me dit, moi, je peux t'aider avec ce jeune, mais en fait, ma vision, elle est globale, et donc, je peux t'aider à mettre en place des réunions d'enfants.
Oui.
Et il avait une vue sur le système, voilà, pas sur l'enfant. Donc, sur le coup, j'étais un peu déconcertée, j'ai dit, oh, moi, je voudrais qu'il m'aide avec lui, là, je sais pas comment faire. J'ai accepté quand même parce que j'étais curieuse et puis voilà, ça venait rencontrer des choses que j'avais pu comprendre sur la pédagogie coopérative aussi. Donc je lui dis ok. Donc là, il se prend en jeu, il m'initie vraiment à mettre en place des réunions d'enfants avec des rubriques, propositions, félicitations, critiques. Et puis il vient vraiment, il est venu sur des réunions pour m'aider quoi, vraiment à mettre en place. Moi, je connaissais rien à l'intelligence collective. Tout a pris avec eux. En fait, moi, je suis vraiment pris au jeu parce que je trouvais ça génial, quoi. Et puis savoir, alors c'était une fois par semaine, une heure par semaine, même pas une heure, hein, c'est des grandes, trois quarts d'heure par semaine. Cet espace, en fait, où on pouvait être un vrai groupe, un vrai système et penser le système ensemble. Et à partir de ça, c'est tout mon travail qui a été. Et ça s'est passé très vite, hein, parce qu'il est arrivé au bout de trois semaines, hein, dans ma carrière.
Génial. Oui.
Voilà. Il m'a proposé d'autres choses que j'ai expérimentées, comme des ceintures, un petit peu plus de travail, tout ça. Et c'est vraiment la réunion d'enfants, pour moi, qui a été le moteur, le précurseur de faire évoluer ma pratique par rapport à ce que j'avais pu connaître. parce que voilà, quand j'arrivais, je remettais un peu les mêmes choses que j'avais connues enfant. Tu vois. Alors, si ce n'est que je voulais surtout pas de manuel de français dans ma classe, c'est moi qui avais fait, ah non, ça, les bleds, c'était même pas possible en peinture, tu vois. J'avais pensé tout l'apprentissage du français avec, j'ai créé tous mes outils pour apprendre le français.
Ok. Alors, je reviens aux réunions d'enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe,
oui,
ou concrètement à quoi ça ressemblait?
Alors, pour commencer, donc, c'était en mode pédagogie institutionnelle. Donc, ça durait 40 minutes, je pense. Il y avait une personne présidente, une personne secrétaire. Mais au début, c'était moi, la présidente et la secrétaire, leur temps de leur transmettre ça. Après, j'avais un apprenti président, un apprenti secrétaire, voilà, que je guidais. Moi, j'étais au milieu. La personne qui est présidente, eh ben, c'est elle qui anime. Donc, qui va donner la parole, qui va dire où on en est sur l'heure du jour, qui va faire aussi... il y a aussi un maître du temps. Voilà, c'est l'animateur de la réunion. Mm-hmm. Et le secrétaire, c'est lui qui va prendre des notes sur toutes les décisions qu'on prend. Voilà. Donc, très concrètement, ben, les enfants s'inscrivaient... alors, ça, c'est pareil. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on passait après beaucoup de temps dans la réunion à préparer les réunions, à se dire comment sont vécues les réunions. Donc, on était vite arrivé à un système. Il y avait un cahier dans la classe. Il y avait des rubriques déjà d'inscrites et chacun mettait son prénom. Après, ils avaient vu que s'ils mettaient juste leur prénom, ils pouvaient oublier ce qu'ils voulaient dire. Ils mettaient leur prénom plus un petit mot-clé. Voilà. Et donc, le président, il avait le cahier en main. Il disait, alors, on commence par la rubrique proposition. Samy, tu t'es inscrit, on t'écoute. Et là, Samy disait la proposition, ah ben j'aimerais beaucoup qu'on fasse une sortie sur le chemin de randonnée là, qui passe sous chez moi, machin, voilà, par exemple.
Oui, chouette. Oui.
Ça. Et puis après, l'animateur disait, bon alors qui a des questions, qui veut donner son avis, et puis on se mettait d'accord sur, ok, alors on a besoin de quoi pour faire cette sortie, il nous faudrait deux adultes en plus, est-ce que tu as une idée, c'est qui pourrait nous accompagner, puis on se disait qui fait quoi, quoi. Et tiens, moi j'écris à telle personne, pour savoir si c'est ok. Voilà, on se mettait d'accord sur ce qu'il fallait faire pour mettre en place ce projet.
Oui.
Alors, si le projet ne rencontrait pas d'écho, il n'avait pas forcément lieu. Des fois, ça pouvait être des projets individuels aussi. Donc, c'est proposé plein de choses, mais là, c'est à l'extérieur. Mais ça pouvait être aussi proposé qu'on organise autrement l'espace dans la classe, qu'on organise autrement le temps dans la classe. L'animateur apprenait justement à faire que ça soit efficace, ce temps en groupe, parce que si c'est long, les enfants ils s'ennuient. Donc moi j'étais là à côté de l'animateur pour l'aider à rythmer, à poser la question, qu'est-ce que tu proposes, voilà. Et puis il y avait aussi des moments des personnes qui n'étaient pas d'accord, donc il fallait que ceux qui ne soient pas d'accord ils puissent donner une autre proposition. Alors, en fait j'ai appris l'intelligence collective avec eux, vraiment avec
Super.
Eux. et j'assure qu'au bout de 5 ans il y a des enfants, ils savaient animer des réunions, ils en auraient fait vraiment des adultes quoi. Il y en a qui étaient très très forts pour ça quoi. Voilà, on essayait et puis on pouvait décider par exemple est-ce que tout le monde doit être animateur à un moment ou pas, parce que c'est sur les 3 ans qu'on doit être au moins une fois, parce qu'il y en a qui étaient très forts pédagogiques. Voilà, c'est des choses qu'on décidait ensemble ça. Et puis après on a rajouté plein de choses, on pouvait on parlait des exposés. Après vu qu'on fonctionnait petit à petit, j'ai augmenté le temps de fonctionnement sur projet.
Oui.
Eh bien, on pouvait aussi gérer ces projets et se faire des présentations des projets sur le temps de réunion. Petit à petit, en fait, on est passé à 2 réunions par semaine, puis 1 réunion tous les jours.
Waouh, d'accord. Ok.
5 ans, on avait 1 réunion tous les jours. On se présentait plein de choses, on faisait avancer nos projets. Et tous les ans, on avait un gros projet. C'était quand on faisait une semaine de vacances, on appelait ça, officiellement en classe de découverte.
Oui.
Et c'est les enfants vraiment qui organisaient. Moi, j'étais là... logisticienne, quoi, tu vois, en ingénieur du truc. Mais la première année, on est parti à Foura dans les Charentes maritimes. Et, les enfants, je leur ai transmis vraiment petit à petit tout ce que je pouvais leur transmettre pour organiser ça. Et au bout des 5 ans, ils organisaient vraiment une très grande partie. Donc, ils choisissaient où. Ils avaient la liste des transporteurs officiels pour les appeler, pour demander les devis. Il y avait quelqu'un qui savait que c'était la personne. Oui, moi, je prends les devis. Et dans la classe, en pleine journée, pour leur plan de travail, ils pouvaient prendre le téléphone, appeler un transporteur. Bonjour, on est telle place, on est à tel endroit. Envoyez-moi le devis à telle adresse mail. Puis après, en réunion, à l'arrivée, ils me disent, j'ai reçu 4 devis.
Ils deviennent acteurs.
Ah, mais complètement. Donc, ça répondait vraiment à la fois à, on fait ensemble, on apprend à se connaître, et puis on apprend à se connaître soi-même et les autres. Parce que ça fait vivre, toi, tu peux expérimenter plein de choses, quoi, dans les projets, plein de postes différents. Et...
Est-ce que c'est les réunions d'enfants finalement qui ont amené toutes ces transformations? Tu disais qu'à la fin, tu travaillais quasiment que sur projet.
Oui.
Ah oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ton...
Ouais.
Comment ça s'est mis en place?
Eh bien, comment ça s'est mis en place? Les premiers mois, hein, j'étais très classique, hein, emploi du temps, une heure de maths, une heure français, une heure de science. Là. Alors, où j'étais un peu moins classique, c'est que direct les maths, pour moi, ça se faisait ensemble, en s'entraidant, quoi. Aller demander de l'aide aux uns et aux autres, s'entraider, faire à son rythme. Je mettais plein d'exercices possibles à faire et voilà. Déjà, c'était un peu différencié ensemble à ce niveau-là. Et puis après, ben, c'est de proposer. Par exemple, j'ai fait une première proposition un jour sur une poésie, un poème. Ça, c'est un poème de Victor Hugo, et j'avais dit, celui-là, on va tous le faire, et vous allez mettre chacun une intonation, quelque chose de différent, un accent, ce que vous voulez. Et donc, ils sont pris au jeu. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on faisait un rendez-vous poème tous les jours après manger. Voilà, ça c'est devenu un projet de la classe. Et puis moi j'ai plus jamais redit faites-le à votre manière, mais juste ils ont pris le goût à ça. Et donc c'était des poèmes théâtralisés quoi. Et je mettais plein de recueils de poèmes dans la classe après, et chacun pouvait aller choisir le poème qu'il voulait et passer ceux qu'il voulait. On avait un quart d'heure chrono et tous ceux qui voulaient passer, ils venaient dire un poème voilà tous les jours comme ça. Et puis c'était rigolo parce qu'il y avait des effets de mode quoi. Ouais, il y a un poème qui était tellement bien lu, tellement bien dit par quelqu'un, que les autres, ils allaient le faire à leur manière, qu'ils se répondaient entre eux. Puis au bout d'un moment, on les filmait, puis on se faisait des compiles. Tu vois, c'est un projet juste, c'est né d'une idée comme ça, voilà. Une autre idée, j'avais dit, on pourrait se lire des histoires entre nous. Et donc, temps de lecture offerte, c'était en fin d'après-midi. Tous les jours, un enfant était inscrit pour lire un livre aux autres. Et là, on a eu des moments magiques, quoi. J'ai eu un enfant qui avait 10 ans, qui était... Alors moi, je lisais jamais les livres scolaires d'avant. Il était en tout cas en très grande difficulté. Hein. J'avais compris, il savait pas très bien lire. Quand il est arrivé la première fois qu'il nous a lu un livre, on n'avait pas bien compris, en fait. Hein. Et un jour, il lit un livre et on comprend. On comprend l'histoire. Et là, il y a un blanc. Il ferme le livre, il y a un blanc. Et là, toute la classe applaudit, quoi. T'imagines l'émotion, quoi. On fait de l'émotion d'y penser. Et donc, ils voient ça. Parce qu'on débriefait aussi après. On était capable de débriefer. Tu vois, les enfants étaient capables de se dire, selon le niveau qu'ils avaient en lecture, de mettre plus le ton, de, tu vois. Et donc, c'était un projet, ça aussi. Tous les jours, et puis après, tous les jours, il y a quelqu'un qui présentait un exposé. Donc, ça s'est ajouté, tu vois, petit à petit.
Donc, finalement, si je comprends bien, c'est les élèves qui, eux, proposer des projets ou se saisissaient de ce que tu proposais pour le répéter.
Souvent, c'est moi qui proposais une première fois quelque chose, voilà.
Oui.
Et puis après, ils s'en saisissaient ou ils s'en saisissaient pas, et voilà, de tout ce dont ils se sont vraiment saisis, ça a créé notre quotidien, quoi. Ouais, vraiment. Et c'était rigolo parce qu'après, ils passaient en sixième, et puis dès qu'ils pouvaient, ils revenaient. Et puis, ils pouvaient très bien s'intégrer, passer un moment avec nous dans la journée sans problème. Il y en a qui revenaient et puis ils disaient, je peux animer la réunion l'année dernière fois. Ils venaient voir qu'il y avait toujours dans les murs, les mémoires, ce qu'ils avaient toujours apporté. Ils venaient voir comment ça évoluait.
Petite pause dans ce podcast où Jessie Canel m'interviewait pour...
Musique maintenant.
Et oui, pour une petite musique maintenant. Pink Martini, le premier bonheur du monde.
Le premier jour, c'est un ruban du soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui étend. C'est l'oiseau qui a chanté.
C'est l'oiseau qui a chanté
sur le branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. C'est la lampe qui s'éteint.
Vous êtes toujours sur Radio Vassivière à l'écoute de la numéro 7 de
Élève-toi
avec les enfants.
Eh bien, je vous ai dit deux bêtises avant cette pause musicale. Déjà, le titre, c'était pas le premier bonheur du monde, mais le premier bonheur du jour, donc, de Pink Martini. Et puis, je vous ai dit pause dans le podcast. Oui, la pause est assez grande, puisque la pause va durer une semaine. La suite, semaine prochaine, même heure, même radio. Voilà. Et avant de vous quitter, je vais vous faire part d'un petit jeu. Allez, un jeu écoute, vous savez, il y a des émissions à écouter en podcast où je parlais du jeu. Eh bien, je vous en raconte un. J'étais en train de ramasser les groseilles, miam miam, dans le jardin. Mes garçons jouaient un petit peu plus bas dans leur cabane et j'ai entendu que ça commençait un petit peu à s'échauffer entre eux. Alors, j'y suis allée, j'ai fait toc 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 et j'ai joué au livreur de bisous. Oui, bonjour, c'est pour une livraison spéciale, j'ai une livraison de bisous et de câlins. Hop, c'est pour qui? Et là, le grand, oui, oui, moi. Alors, j'ai fait un bisou. Et le petit, non, non, pas moi. Bon, d'accord. Et j'ai livré mes bisous et en fait, ça a remis de la connexion au niveau du grand. Moi, ça m'a fait du bien aussi. Je suis repartie à mes groseilles. Un petit peu plus tard, je suis repassée. J'ai refait le livreur. Et là, le petit en voulait cette fois-ci. Alors, je l'ai couvert de bisous. Et le grand aussi. Et je vous assure qu'ils ont joué un bon moment. Ça tombe bien parce que mon groseillier, il est plein de groseilles. Allez, ensuite...
Un défi pour les parents.
Et oui, je vous donne un défi quand même pour cette semaine. Le défi, c'est de savoir appuyer sur chute. Oui, chute, voilà. Pile au moment où je vais m'agacer, pile au moment où je vais redire les mots que ma mère me disait, les mots que mon père me disait, les mots que mon instinct me disait, enfin bref, tous ces mots de travers que j'ai entendus et que je suis en pilote automatique pour les ressortir, ou bien la morale, ou bien la comparaison, tout ça. En fait, j'apprends à appuyer sur chute. Voilà, j'appuie sur chute et je fais autre chose. Alors, je bois un coup, je vais ramasser les groseilles, je vais juste regarder le soleil, je vais aux toilettes, je mets un morceau de musique, enfin bref. Je trouve la manière qui me permet d'appuyer sur pause, chute et de me taire pour ne pas entrer dans ce cercle vicieux qui va entraîner juste un petit peu plus de catastrophe dans la relation familiale. Voilà. Est-ce que j'ai un...
Un livre pour les parents.
Ah bah non, cette semaine, j'ai pas un livre pour les parents. J'ai un site, Grandir main dans la main, la version française de Hand in Hand de Patty Whipfleur. Vous trouverez notamment des articles traduits par la chère Chloé Saint-Guilhem. Voilà, voilà, pour aujourd'hui, c'était donc la septième de...
Élève-toi
avec les enfants.
Vous pouvez toujours m'envoyer vos questions, me raconter les petits trucs que vous vivez en rapport avec ce que je raconte ou pas du tout. Voilà, quelles sont les situations du quotidien avec les enfants qui vous questionnent, qui vous posent problème. Vous m'envoyez ça à emilie9@posteo. www.lesenfantsdu.net. Et je relance l'invitation, si quelqu'un a envie de venir enregistrer une émission avec moi, soit pour parler des bébés, soit pour parler de l'école ou pour l'école à la maison, vous êtes bienvenue. Donc la semaine prochaine, la suite du podcast Grandir avec Jessie Canel. Très bonne semaine à vous, à l'écoute de Radio Vassivière.